Bonne semaine à tous. C'est déjà lundi. Il reste 2 semaines exactement à l'émission Ni Noir ni Blanc.
Arrête de dire ça.
Je sais, il faut que j'arrête de dire, mais ça me fait de la peine. Fait qu'on dirait que d'en
laisse-moi
parler, ça
éviter.
Me fait du bien.
Non, mais laisse-moi éviter. On n'est pas tous rendus à la même place.
Laisse-moi faire de l'évitement par rapport à ce sujet. Ce que tu nous as enseigné à ne pas faire depuis le début de l'été. Alors, c'est ce qu'on va faire pour les 2 prochaines semaines. De l'évitement.
C'est ça qu'on va faire.
Alors aujourd'hui, grosse émission pour vous encore une fois. Courrier du cœur, quel sujet controversé aujourd'hui? Qui devrait payer au premier rendez-vous? C'est une époque où la question se posait pas, maintenant elle se pose.
Oui, puis on reçoit beaucoup de demandes sur ça. Là. C'est comme vraiment, y a-tu vraiment une technique pour savoir quelle est la bonne décision? Fait qu'on va répondre à ça.
Absolument.
Je sais pas si on va répondre à ça.
Ben, en tout cas, on va voir avec vos appels. Peut-être qu'on va en arriver à un consensus social, tout le monde.
Finalement, un référendum là-dessus.
Oui, c'est ça. À 11h, on va parler des fameux selfies, des égoportraits. Ouais. Il y a un article fort intéressant qui est paru ce week-end sur l'effet des égoportraits chez les jeunes. Et bon, vous ne serez pas surpris de voir qu'évidemment, dévalorisation, culture d'une beauté ou d'un standard qui n'est pas atteignable par rapport à ces photos-là. Ce n'est pas nécessairement bon de prendre des photos comme ça. Et surtout, le nombre de photos qu'on doit prendre avant d'en arriver à une qui nous plaît. Alors, c'est de ça dont on va parler à 11h. On va avoir un petit coup de gueule de Guillaume encore une fois aujourd'hui.
Ben oui.
On a parlé de l'équilibre la semaine dernière et aujourd'hui, on va parler de la science. Plus précisément, est-ce que vous croyez à la science? Mais pas à la science que vous pensez. Là, on ne parle pas des complotistes et toutes ces choses-là.
C'est une autre science. Est-ce qu'il y a de la bonne science et de la moins bonne science?
Voilà.
Et comment on fait pour voir ça? Parce que ce n'est pas facile, les amis, de s'y retrouver et je comprends à 100% ça. Donc, on va en parler un peu.
Mais d'abord, premier sujet aujourd'hui, c'est le retour des vacances de la construction. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit peu plus de gens sur les routes ce matin. Et il y a une histoire vraiment très triste qui s'est produite en fin de semaine. Ça se passe à Saint-Ambroise, au Saguenay. C'est une dame de 45 ans, Jennifer Savant, qui a perdu la vie après avoir été happée par un véhicule. Elle était à pied, elle promenait son chien et elle aurait possiblement été victime de rage au volant, mais victime collatérale parce qu'elle n'était pas du tout impliquée dans la chicane en question entre deux personnes. Et elle aurait été une victime collatérale, donc, de rage au volant, de quelqu'un qui a vraiment pété les plombs, qui a été impulsif.
C'est ça, il n'a pas pété les plombs contre cette personne-là.
Non, exactement.
C'est vraiment comme était dans le chemin de la colère.
Elle n'avait rien à voir là-dedans.
C'est totalement
injuste qu'il lui est arrivé une dame de 45 ans, Jennifer Savard. Et ça nous a amené, en fait, à parler de rage au volant en général parce que on a remarqué en discutant ce matin qu'on a l'impression qu'on devient quelqu'un d'autre quand on est derrière le volant.
Ouais.
Puis je donnais l'exemple, là. En fait, je donnais mon exemple à moi parce que je suis pas quelqu'un qui pète des coches dans la vie, là, mais jamais. Là. C'est
assez en contrôle émotionnellement, toi.
Vraiment.
Tu n'as pas beaucoup de débordements.
Mais mes plus gros débordements émotifs, c'est quand je suis derrière le volant. On dirait qu'il y a des situations qui viennent me chercher. Là. Évidemment, jamais j'ai rien fait en lien avec la rage au volant. Là.
Ouais.
Mais j'ai eu des comportements impulsifs ou des affaires qui venaient me chercher puis qui me mettaient en maudit pendant un bon 20 minutes, 30 minutes des fois après les faits.
Comme
je restais
quand,
fâchée.
Là, c'est quoi une affaire qui fait pogner dans sa route.
Mettons, quelqu'un qui me coupe, par exemple, ou quelqu'un qui est dans la voie de gauche puis qui avance pas du tout, là, qui est même pas à la limite permise, là, mettons, là, qui avance vraiment, vraiment pas dans la voie de gauche, ça me rend complètement débile. Là. Et ça vient vraiment me chercher.
Mm.
Puis je dois pas être la seule, parce que des cas de rage au volant, il y en a énormément, puis même que pendant la pandémie, apparemment que ça a augmenté. Peut-être parce qu'on avait plein d'autres aspects dans nos vies qui allaient pas très bien, fait qu'on se défoulait là-dedans. Mais des cas de rage au volant, il y en a. Ça vient pas toujours à des fins mortelles, comme ça a été le cas en fin de semaine au Saguenay, malheureusement. Mais très souvent, assez pour que qu'un des deux sorte de son véhicule puis a engueulé l'autre à sa fenêtre. Là.
Ouais.
Et tu dis, comment on fait pour en arriver là? À quel point une situation sur la route peut te fâcher à ce point-là? Puis je me remets en question, moi aussi. Toi, t'es-tu du genre à être fâché au volant?
Pas vraiment. Ben, moi, je pense que j'ai un potentiel d'être fâché, d'être très fâché, mais tu vois, en en parlant ce matin, je réalise à quel point je me suis instauré des mécanismes parce que je veux pas vivre ça. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre puis que là, je suis plus calme qu'un autre, là, mais...
Tu contrôles. Tu gères ça.
Je dis pas que je me contrôle. C'est je m'assure de minimiser les chances pour que le comportement des autres affecte ma sécurité. Fait que une des choses, c'est que je roule jamais vite et j'accepte d'être en retard. Puis ça veut dire que là, c'est pas instantané. Mais avec le temps, moi, je dis, ben si je peux pas aller plus vite que ça, c'est ça, j'accepte ça. Puis surtout, j'essaie de pas suivre personne proche ouais. et j'essaie de garder les gens loin. J'essaie d'avoir un périmètre 360 tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, c'est ça. Mon but, c'est de ne pas être en contact avec personne.
Pour limiter les chances, en fait, que ça déborde essentiellement.
Oui, là. C'est ça. Comme ça, j'ai pas besoin de me soucier de ça. Puis c'est moins dangereux. Donc, ça, c'est vraiment ma méthode. Puis ça marche assez bien, je te dirais. Je suis plus en retard que d'autres. Mais...
Oui, c'est ça. La question qu'on vous pose, les auditeurs, ce matin, c'est est-ce que vous devenez quelqu'un d'autre ouais. au volant? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Pensez à la personne que vous êtes dans votre vie de tous les jours. Êtes-vous quelqu'un qui avait tendance à vous fâcher peut-être? Ou au contraire, vous restez toujours calme et ça va relativement bien, vous êtes bien capable de communiquer, mais une fois que vous arrivez derrière le volant, il y a des situations qui peuvent là vous en fait provoquer des comportements chez vous que vous n'avez jamais normalement.
Ouais.
Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez au volant? Et je pense qu'il y a une raison où il y a une certaine science derrière le fait d'être différent au volant, Guillaume.
Oui, parce que c'est très particulier ce qu'on vit dans une voiture. Premièrement, quand on dit rage au volant, l'émotion à la base de ça, c'est la colère. Mm-hmm. Et la colère, c'est l'émotion qui est responsable des limites ou des territoires. Donc, ça sert à garder notre territoire sécuritaire. C'est ça, la colère en général dans la vie. Mais là, quand tu es dans une voiture, ton territoire, c'est quoi? C'est directement la surface de ton véhicule. C'est ton habitacle, OK? C'est pas un grand territoire, Donc, c'est facile de se sentir envahi sur un territoire qui est déjà restreint. Et deux, on est entouré de variables et de voitures qui bougent et qu'on ne contrôle pas. Donc, c'est facile de se sentir envahi et c'est difficile de contrôler l'environnement, pour ne pas dire quasiment impossible. On ne peut pas contrôler la conduite des autres. Donc, quand tu as peu de contrôle sur l'environnement et ton territoire est très restreint, ça veut dire que tu es beaucoup plus sujet à ressentir de l'impuissance et de la colère. Donc, c'est normal que dans une situation comme dans un véhicule, on va sentir qu'on est plus irritable. Ça peut venir nous chercher rapidement. On passe de « on était relax », il y a juste un comportement d'une personne et on sort de nos gonds. Donc, il n'y a pas comme, comment je dirais ça, de marge de manœuvre,
ouais,
de tampon, j'allais dire buffer, mais dans le fond, c'est le tampon. Alors que dans la vraie vie, notre territoire est beaucoup plus flexible, il est plus large. On a plus d'espace autour de nous. On est capable de prévoir où on s'en va. Ça va moins rapidement. Dans une voiture, pas de marge de manœuvre et il y a un risque de danger physique. Dans la vie de tous les jours, c'est rare où notre territoire est restreint puis notre vie peut être en jeu. Dans un véhicule, notre territoire est restreint, on ne contrôle pas l'environnement, notre vie peut être en jeu. Donc, c'est la formule pour faire ressortir le plus de pétages de coche possible. Et donc, il y a comme un contexte qui est en guillemets normal que ça ressorte.
Guillaume, juste avant de prendre des appels sur le comportement au volant, on a quelqu'un qui a appelé, je pense que c'est la cousine de la dame qui est décédée en fin de semaine. Elle s'appelle Marino, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ça va bien,
merci.
Ben Marino, d'abord, toutes nos condoléances pour votre cousine.
Oui, merci beaucoup. On est un petit peu tout sur le choc là, dans la famille.
Oui.
D'autant plus qu'on sait que c'est une victime collatérale de rage au volant.
Oui.
Mais ben oui, sans compter non plus, évidemment, là, qu'elle était accompagnée de son propriétaire.
Mm-hmm.
Donc, lui, il est en choc, hein.
Mm-hmm.
Et qui devra probablement vivre, là, avec ça sur la conscience également, t'sais.
Parce que c'est lui qui s'est chicané avec l'autre automobiliste, c'est ça, hein?
Oui, ben, selon ce que l'on sait, oui.
Ouais.
Donc, lui aura ça aussi, là, à vivre avec ça, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qui a déclenché ça entre les deux hommes, mais. Clairement que là, il y a quand même une mort, là. Une mort, jeune femme, une jeune grand-mère, là, tu sais, à 45 ans, c'est pas vieux, là, je veux dire.
Puis Marino, dites-moi, pour vous, les proches, là, est-ce que c'est pire de savoir qu'elle est décédée à cause d'un accident qui aurait pu être évité? Est-ce que ça amène une difficulté supplémentaire à accepter ça?
Ben, c'est parce que c'est une tragédie, tu sais, je veux dire, c'est... Tu sais, la mort en soi, hein, c'est toujours difficile à accepter.
Mm-hmm.
Mais quand ça vient d'un geste comme ça, qui aurait pu, comme vous dites, qui aurait pu être évité, il y a une rage aussi, sans faire de jeu de mots, mais il y a une rage qui vient nous emporter aussi,
ouais,
tu sais.
Absolument.
Et tu sais, moi, comme je disais à la dame qui répondait, moi, je travaille, je fais les soins à domicile, je suis sur la route. Donc, je vois beaucoup ça. Et moi-même, tu sais, j'en suis parfois là, tu sais, j'ai la rage qui me monte,
ouais,
là, tu sais,
ouais.
Et là, depuis, on dirait que, mon Dieu, j'y pense encore plus, tu sais, de calme-toi, tu sais, au pire, change ton poste de radio, mets de la musique classique, là, tu sais, si tu vois que la pression, elle augmente, là, tu sais, à cause des gens, là, tu sais, qui sont tellement individualistes, sur les routes, tu sais, les piétons, les cyclistes, là, tu sais, c'est tout le monde, là, hein, c'est pas juste les automobilistes, là. C'est vraiment tout le monde.
Mais Marino, je suis contente que vous le dites parce que je pense qu'il y a personne qui nous écoute présentement qui peut dire, moi, je suis blanc comme neige, je n'ai jamais rien fait sur la route qui aurait pu causer une certaine rage. Je pense qu'on a tous été coupables à un certain moment d'un comportement qui a pu s'approcher d'une colère au volant. Mais comme vous dites, Marino, vous venez de perdre votre cousine à cause de ça. Ça remet les choses en perspective pour nos comportements futurs. Hein?
Ah, tout à fait. Absolument. Puis, je ne crois pas non plus que cet homme-là a pensé qu'il allait tuer une jeune femme, là.
Absolument.
Hein, quand il est parti comme ça, puis qu'il s'est laissé emporter, là, je ne crois pas. Donc, on peut tous être touchés face à ça. Tu sais, ça peut tous être nous, là.
Oui.
Et qui enlevons la vie de quelqu'un, là, involontairement, tu sais.
Marino.
Donc, pensez-y bien. Honnêtement, pensez-y bien, puis soyez prudents, puis regardez, Dieu merci, s'il vous plaît. Regardez des deux côtés, regardez avant de reculer, avant de regarder.
Marino, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous appeler ce matin. C'est très apprécié d'avoir votre point de vue. Merci.
Oui, merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Ça remet, quand on vit une situation comme ça, puis on l'a vécu de proche, effectivement que ça doit remettre un petit peu les choses en perspective. Là, Marino a même dit, moi-même, des fois, j'ai des comportements que je me dis, oups, je sens monter une certaine rage en moi.
Oui.
Mais là, depuis que ça s'est arrivé, ou tu vis ça, tu dis, wow, c'est-tu si pressé que ça, moi, dans la vie, là, sur la route, là? Même si j'arrive 10 minutes en retard au travail, c'est-tu si grave que ça, tu sais? Parce que, essentiellement, j'ai l'impression qu'une grande partie des situations de rage comme ça ou de chicane entre automobilistes qui proviennent du fait qu'on est pressé.
J'ai pas l'impression, moi.
Non?
Non, moi, j'ai pas l'impression. Parce que la rage ou la colère, c'est vraiment un enjeu interpersonnel. C'est pas je vais être en retard. C'est le sentiment de ne pas être respecté. Et c'est ça qui fait péter un plomb. Et le cerveau déteste ne pas se sentir respecté et déteste se sentir envahi par l'inconscience des autres. Puis il y a des mécanismes qui empêchent ça pour préserver ton territoire, préserver ton individualité. Fait que c'est pas juste je suis pressé. La rage, OK? Puis je dis pas qu'il n'y a pas d'accident relié au fait qu'on va arriver plus vite au travail. Il y en a des accidents, mais là, si aujourd'hui on parle de la rage au volant, c'est un peu plus précis. Ça, c'est interpersonnel. Et c'est la raison pour laquelle, quand une personne t'a, entre guillemets, insulté ou a fait quelque chose qui t'a offensé sur la route, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller voir sa face. Tu vas aller regarder ses yeux, tu veux voir qui
t'a
vu.
C'est vrai qu'on fait ça. Souvent, tu vas aller même plus vite dans la voie d'à côté juste pour voir.
Oui, tu veux. Faut que tu vois qui t'a vu.
Ouais.
Et là, tu fais bon, c'est beau, le message a été compris. Sinon, on n'est comme pas capable de passer à d'autres choses. Fait que c'est un mécanisme de régulation émotionnelle de type relationnel. Fait que ça a l'air drôle à dire, on est dans des véhicules. C'est que tu veux pas faire affaire avec un véhicule, tu veux retrouver un sentiment de contrôle, puis on prend le sentiment de contrôle en regardant une personne.
On doit s'arrêter pour la première pause de l'émission. On a pris quelques minutes de retard. Est-ce que vous devenez quelqu'un d'autre au volant? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Est-ce que vous pétez les plombs parfois? Est-ce que vous sentez la rage monter? On vous parle au retour de la pause. On parle de rage au volant ce matin, mais pas nécessairement de rage au volant, mais disons de sentiment de colère au volant, parce que c'est pas toutes les situations qui vont mener vraiment à des cas de rage en tant que tel.
Oui, tu peux ressentir de la rage sans que ça s'extériorise sous forme comportementale.
Et c'est ce qu'on vous pose comme question ce matin. Est-ce que vous devenez quelqu'un d'autre au volant? Est-ce que vous sentez que vous fâchez plus facilement au volant que dans d'autres situations de vos vies? On a Denis qui est avec nous. Bonjour, Denis.
Bonjour, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup interpellé votre sujet aujourd'hui. Puis en passant, je voulais juste souhaiter mes condoléances à l'auditrice avant. C'est vraiment triste de voir ça aujourd'hui. Là.
Ouais.
Moi, je vais vous dire, moi, la raison que ça m'interpelle beaucoup, c'est que je suis conducteur de véhicule lourd.
Ouais.
OK. Je dis pas que je suis blanc comme neige. Là. Étant plus jeune, j'ai quasiment 50 ans. Étant plus jeune, j'ai jamais fait de rage au volant, mais je me sens enragé souvent au volant. Parce que j'ai toujours pensé à la journée qui va arriver quelque chose, c'est nous qui est pris avec la situation après, quand il arrive quelque chose de majeur. Donc, ça m'a interpellé beaucoup. Puis depuis que j'ai eu des enfants, je me suis assagi énormément là-dessus, c'est certain. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, je vais vous dire les deux choses qui méritent le plus. C'est que quand on conduit un véhicule lourd, je sais que c'est pas le fun d'être en arrière d'un camion. C'est pas le fun d'être toujours en arrière d'un camion, puis ainsi de suite. Mais les gens, s'ils comprendraient juste une chose, de s'identifier quand ils veulent changer de ligne, ça, ça peut sauver des vies. Parce que nous, là, si tu te tasses et tu démontres pas une intention, les gens aujourd'hui, là, ça se tasse en même temps de mettre leur clignotant.
Ouais.
Ça, là, ça nous donne pas de chance. On a fait toujours...
Denis? Ah, oh, on vous a perdu.
Denis.
Ah, oh, c'est intéressant.
Mon Dieu.
Bon, on a perdu Denis. C'est pas grave.
Non, il y a quand même des bons points là-dedans,
absolument.
Moi, je trouve.
Mais écoute, Denis, premièrement, là, comme conducteur de véhicules lourds, puis je veux dire, je m'adresse à tous les camionneurs qui nous écoutent présentement, votre emploi est tellement difficile. Là. Sincèrement, je sais qu'à tous les jours, vous devez gérer des situations avec des automobilistes impatients ou incompétents, un des deux. Et pour avoir parlé avec des camionneurs par le passé, c'est extrêmement difficile de gérer les gens sur la route. Incroyable.
Sais-tu quoi? Tu parles de ça, puis ça me fait réaliser, mettons on est en arrière d'un gros camion qui avance lentement, puis tu vois pas qui conduit, tu vois juste, tu transformes en victime, tu comprends? Tu dis, sais-tu quoi? C'est un maudit gros camion-là, il fait juste m'empêcher de vivre, tu comprends? Je peux pas négocier avec, il va faire ce qu'il veut, puis moi je vais me tasser, et t'as comme un genre de feeling d'injustice. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle, mais je viens comme de le catcher là. Je me sens comme opprimé par ce gros camion-là. Ouais. Puis je suis comme fâché contre lui.
Qui souvent va moins vite que tout
le monde. Oui, puis je ne mérite pas ça. Moi, je ne mérite pas ça. C'est comme à d'autres, puis je n'ai pas à subir ça. Mais tu sais, comme les camions transportent tout ce qu'on consomme.
Exactement.
100% de tout a été transporté. Puis là, on oublie que c'est rien qu'une personne qui fait ce travail-là. Puis ça devient comme juste une espèce d'oppresseur. Le camion, là, t'es comme le camion. Fait que si c'est juste un oppresseur, t'as-tu le goût d'y manifester, mon petit clignotant va collaborer? Non, faut que je te batte. Faut que je survive contre toi.
Mais on réalise pas l'importance des camions. Écoutez, là, enlever tous les camions de la route pendant ne serait-ce que 3 jours.
Ah non, mais c'est
3 jours. C'est terminé, oui. Je veux dire, tout le monde va s'entretuer pour avoir les denrées. Là. C'est hallucinant.
Ouais.
C'est hyper important, le camionnage, effectivement. Mais oui, sur la route, c'est une cohabitation qui peut parfois être difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut leur faire la vie dure puis se penser supérieur à eux. Là. Pas
puis
du
tu
tout.
Vois, ce que Denis disait, c'est, regarde, il faut juste mieux communiquer entre eux. J'ai de l'air bien fatigué à plugger ma maudite communication partout. On n'a pas le choix. Ça demande de Denis, c'est juste, gars, sois juste plus clair sur tes intentions. C'est plus facile. Mm-hmm. Mais pour communiquer un camion, il faut que tu dises qu'il y a un humain en arrière, qu'on va être en équipe là-dedans.
Ouais.
Fait que ça revient de « j'ai des intérêts personnels, mais il faut travailler en équipe en même temps ».
Catherine est avec nous. Bonjour, Catherine.
Oui, bonjour. Moi, j'appelle parce que je deviens complètement une autre personne au volant,
bon.
Que ce soit en voiture, en vélo, tout ce qui a des roues.
OK.
je me transforme en Jacques Villeneuve.
Ah bon. Oui? Vous allez vite, vous, là.
Je suis une accro à la vitesse.
OK.
Je suis quand même bonne conductrice. Je ne possède pas de voiture à cause de cela.
Oh oui.
À 50 ans, oui. Mais aussitôt que j'ai déjà conduit, étant jeune, c'est épouvantable comme j'adore la vitesse. Donc, je deviens patiente. Je peux zigzaguer entre des voitures. Je peux même vous donner un exemple. J'étais sur l'autoroute. Je voulais complètement dépasser et je me suis rendue. J'étais un peu émue de cet événement-là. J'ai été prise entre deux voitures.
OK.
En dépassement. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne posséderai plus jamais de voiture.
Ah ouais.
Fait que c'est pour ça que vous êtes acheté une moto?
Non. Même pas, je suis à pied, là. Je prends l'autobus.
C'est un peu une blague, ayez pas de moto, là.
Mais Catherine, c'est très transparent et honnête, par exemple, de votre part, d'avoir pris cette décision-là. Vraiment.
Oui, parce que, écoutez, j'ai été en France et... là-bas, c'est le fun parce que la vitesse est un peu plus intense, mais j'ai vécu des rages de volant là, de Français au point là, les gens, ils débarquent, ils se frappent sur la gueule complètement. Là.
Ouais.
Ça m'a traumatisé aussi. J'ai dit non, j'ai pris la décision de ne pas conduire.
Y a-t-il d'autres domaines de la vie où tu te fâches comme ça ou c'est vraiment uniquement relatif aux véhicules ou aux autos?
Au véhicule, à la roue. Le vélo, c'est pareil, là.
Oui, OK.
Tout ce qui va vite, en fait. Tout ce qui peut vous déplacer plus rapidement.
Oui.
Je comprends. Ouais. Catherine, merci beaucoup d'avoir appelé.
Merci.
Merci.
Au revoir.
C'est, je trouve ça très, très honnête de la part de Catherine. Premièrement, de dire je suis consciente que je suis un danger pour les autres et pour cette raison-là, je vais éviter toute situation potentielle où je pourrais être un danger.
Si à un moment donné, tu n'as pas trouvé la façon de gérer ton danger potentiel, je pense que c'est une bonne solution de t'abstenir pour l'instant.
Mais encore faut-il savoir que tu es un danger potentiel. Il y a beaucoup d'automobilistes qui ne veulent pas se l'admettre.
C'est parce que normalement, un humain, il faut que ça se rende sur le bord du précipice pour se rendre compte de quelque chose.
Ouais.
Fait que là, tu vois, il y a eu un événement là, qui a fait un petit signe de dire là, ça passe ou ça casse. Mais tant ou si longtemps qu'on ne l'a pas vécu, on surfe sur l'idée que ça va passer.
Allons parler à Carole maintenant. Bonjour, Carole.
Carole.
Carl! Oh, excusez-moi.
Allô, Carl.
Je vous ai débaptisé. Bonjour, Carl!
Écoutez, moi, votre sujet m'a vraiment beaucoup interpellé parce que je fais beaucoup, beaucoup de kilométrages dans une année et j'ai vraiment un tempérament qui est sujet à pogner les nerfs très rapidement. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais ce qui m'aide énormément, c'est toujours de penser aux conséquences, jusqu'où ça peut aller.
Oui.
Puis, sérieusement, ça me ralentit énormément.
Oui.
Je vous donne un exemple. Tu sais, comme quand tu as parlé tantôt du fameux regard, là, tu veux aller à côté, absolument, là, pour aller voir le regard.
C'est
la première des choses, c'est la pire à faire. Parce que, tu sais, on a tous une certaine égo, puis sérieusement, jusqu'où ça peut arrêter, c'est quoi? Après, le gars va arrêter, tu vas arrêter, on va se taper sa gueule.
Oui.
Après ça va... C'est pas fini.
Ouais.
La police, ça peut aller jusqu'en casier judiciaire. Ça peut aller très, très, très vite. Fait que moi, tout ça, je me suis dit, c'est vrai, je suis pas patient au volant. C'est définitif, je suis pas patient, mais est-ce que je suis prête à payer le prix? Non.
C'est ça, tu gardes ça en tête, la conséquence potentielle.
Ah, oui. Puis aujourd'hui, là, le monde, c'est vrai, sont pas patients. Je pensais aux camionneurs, justement, tantôt, qui parlaient eux autres, ils goûtent encore plus que moi. Mais il faut vraiment penser aux conséquences. C'est ce qui va nous sauver vraiment de situations vraiment là, qui peuvent dégénérer.
Mais l'affaire, Carl, c'est que pour plusieurs personnes, ces conséquences-là, c'est tellement éloigné d'eux, là, dans le sens que c'est le genre d'affaires qui arrivent juste aux autres. Moi, j'en ai pas eu d'accident.
Théoriquement, peu probable.
C'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est difficile de se rappeler les conséquences quand on est dans l'émotion, là. Quand on vient de se faire quelque chose au volant, et là, on est vraiment fâché, on est en colère. Je comprends ce que vous dites, il faut vraiment les garder en tête, les conséquences, mais c'est extrêmement difficile de s'en souvenir quand on est pris par la colère, là.
Absolument, absolument. C'est vrai que dans l'émotion, souvent, on réfléchit plus. C'est sur le coup, donc c'est souvent là qu'on fait des conneries. Fait qu'il faut vraiment travailler sur notre patience.
Absolument.
Parce que moi, entre autres, là, des situations, parmi tant d'autres, c'est sur une voie semi-rapide, on va dire, je prends tout le temps l'expression, coudon, ça va-tu y prendre un faire-port pour tourner? Ah, Seigneur, ça vient me chercher. Tu sais, c'est sur une voie rapide, tu roules 60, puis le gars, là, ça y prend une éternité pour tourner. Oh, misère!
T'es fâché juste à nous parler, là calme-toi, là, reste
calme.
Mais c'est drôle.
Carl, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci.
Passez une belle journée.
Toi aussi.
Merci, vous aussi. C'est incroyable parce que les gens qui nous appellent, qui disent qu'ils se fâchent au volant, ça, tu les écoutes, ça a l'air de gens tout à fait normaux. Là. C'est monsieur, madame, tout le monde, là. Vraiment. C'est pas des gens qui pètent des coches dans leur vie en général ou qui sont donc bien impatients dans tous les aspects de leur vie. Il y a quelque chose vraiment sur la route, comme tu l'expliquais tantôt.
C'est clair.
Il faut être conscient de cette notion-là supplémentaire qu'on n'a pas nécessairement dans notre vie de tous les jours. Il faut en être conscient, puis il faut apprendre à vivre avec aussi.
Il faut être conscient qu'on... Ça veut dire qu'on porte ça en nous. C'est juste que, tu sais, un trait de personnalité ou un comportement va émerger dans des situations particulières, des comportements extrêmes. Souvent, ça ne va pas ressortir dans notre vie quotidienne parce qu'il n'y a pas le contexte, il n'y a pas les déclencheurs, il n'y a pas la synergie du contexte qui va faire émerger ça. Mais c'est latent, c'est dans nous. Et c'est pas, on n'est pas une autre personne vraiment dans la voiture. On a ça dans nous autres, puis il y a des circonstances qui peuvent faire ressortir quelque chose qu'on pensait jamais qu'on aurait. Puis, effectivement, faut se demander qu'est-ce qu'on a à perdre. Parce que c'est dur résister à de l'impulsivité.
Vraiment.
Parce qu'il y a une forme de soulagement là-dedans. Quand tu te fâches contre quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux à court terme, un renforcement à court terme là-dedans. Et c'est la même chose pour contrôler l'impulsivité, la colère et même la consommation. Pourquoi on arrêterait de consommer? C'est parce que c'est super, la consommation, ça goûte bon, c'est euphorisant, mais c'est parce qu'on a beaucoup à perdre Donc, faut l'avoir dans la tête, ce qu'on a à perdre. Puis c'est pas juste la police, c'est la famille, c'est la vie, c'est les accidents, c'est mille et une choses qu'on a à perdre. Et là, on est plus capable de se contrôler. Là.
Ça se peut-tu qu'il y a une petite partie de sentiment de supériorité aussi? Moi, je suis meilleur conducteur que tous ces gens-là qui m'énervent en ce moment sur la route, puis ça m'énerve de partager la route avec des gens qui ne savent pas conduire aussi
bien. Oui, c'est, on se sent envahi par l'incompétence.
Oui, c'est ça. On doit s'arrêter pour la pause, ni noir ni blanc. On se retrouve dans quelques minutes. On parle de rage au volant ce matin. Est-ce que vous devenez quelqu'un d'autre au volant? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Adrien est avec nous. Bonjour, Adrien.
Et moi, je suis dans un métier où il faut vraiment que tu contrôles ta rage et tu contrôles la rage des autres.
Ah oui?
Parce que moi, je suis chauffeur d'autobus. Fait que j'ai du monde en dedans de mon véhicule, j'ai du monde alentour de moi. Faut pas que je pogne les nerfs, faut que je calme mon caractère, faut que je garde tout le temps la patience le plus possible. Malgré que des fois, on a des chemins aussi au Québec qui nous enlèvent notre patience. Comme le 132 sur le bord du fleuve, un du côté nord, il y a tellement plein de trous et de bosses que t'as l'impression que tu vas sauter en bas du véhicule à force de pogner des bosses et des trous.
Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr.
Puis là, toi, tu transportes des enfants en plus.
Je transporte soit des enfants ou soit des adultes. Tu fais du transport scolaire ou tu fais du transport urbain.
OK.
Adrien, je vais vous poser une question. Quand vous êtes au volant de votre autobus, par exemple, ou de votre moyen de transport, versus quand vous êtes au volant de votre propre véhicule à des fins personnelles, est-ce que vous êtes différent?
C'est un peu pareil.
Ah oui, c'est vrai? Moi, j'aurais pensé que c'est différent.
Ça dépend de ta température, ça dépend de ta femme, si tu connais avec ta femme ou pas.
Adrien, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Moi, si c'était à des fins professionnelles, probablement que mon attitude serait un petit peu différente. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on dirait que là, tu es en mode travail. Là. C'est mon travail de faire ça. Quand même, j'arrive 5 minutes avant ou après, ça ne change rien. C'est mon travail.
Puis pourquoi il y aurait une différence?
Il faudrait que je m'étende sur un divan. Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Mais j'ai l'impression que ça doit être un petit peu différent. Annick est avec nous. Bonjour, Annick.
Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez?
Très bien.
OK. Je deviens pas tant une autre personne. Pour vrai, je suis pas excessivement impatiente sur la route. Par contre, il y a des moments où ce que ça peut arriver, puis ce que je me rends compte souvent, c'est quand je deviens soit plus anxieuse ou s'il y a des trucs sur la route qui m'insécurisent. Comme tantôt, on parlait là d'être en arrière d'un camion, d'un poids lourd. Moi, ça va me faire fâcher les poids lourds, pas parce qu'ils me ralentissent, parce que j'en ai comme un peu peur, tu sais. Des fois, t'es dans la voie de gauche, j'essaie de les dépasser à gauche, puis là, t'as comme pas beaucoup de place, et tire un peu ça à gauche, puis là, je me dis, je vais être coincée, puis là, je deviens vraiment, vraiment en colère, parce que j'ai l'impression que je me sens menacée sur la route ou quelqu'un qui me coupe, mais dans le fond, c'est de la peur. C'est pas de la supériorité ou des trucs comme ça, c'est vraiment parce que je me sens pas en sécurité sur la route dans ces contextes-là. Puis là, je deviens vraiment très enragée.
Mm-hmm. C'est ça. Tu vois, ce qui est intéressant, là, dans ce qui est implicite là-dedans, c'est que tu as deux émotions parallèles. Tu as de la peur, mais tu as aussi de la colère. Tu as de la peur parce qu'il y a un risque que quelque chose de négatif t'arrive. Il y a un danger potentiel, mais il y a aussi de la colère parce qu'on est fâché contre quelqu'un, contre un envahissement. Fait que c'est deux choses. On a peur des conséquences, plus il faut protéger un territoire. Fait que c'est beaucoup d'émotions négatives intenses en même temps. Et c'est dur. C'est dur à gérer dans l'instant présent.
Oui, c'est surtout, tu sais, c'est ça. Tu sais, quand dans le fond, les gens sont juste au ralenti, des fois, tu les trouves un peu, tu sais, fatigants ou c'est un peu dérangeant, mais tu prends ton gaz égal puis tu dis, c'est correct, je vais être un peu en retard, c'est pas grave, mais quand tu as l'impression que ta vie est menacée ou que, tu sais, monsieur avant, il parlait, tu sais, des passagers, mais c'est justement, tu sais, par exemple, j'ai ma petite fille dans l'auto puis quelqu'un me coupe, là, je vais être vraiment fâchée parce que je vais être comme tu mets la vie de ma petite fille en danger.
Mm-hmm.
Là, je vais vraiment, mais dans le fond, tu sais, c'est de la peur. Si j'avais pas peur à ça, je ferais juste comme OK, qu'il fasse son chemin, puis je vais faire le mien.
Ouais. Annick, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Guillaume, il faut que je te lise un texto.
Vas-y.
Je ne sais pas si c'est une explication à ça, mais je trouve ça très intéressant. Quelqu'un nous écrit « J'ai deux personnalités. Dans mon F-150, je suis plus baveux. mais dans ma Volt électrique, je suis vraiment plus doux. Par contre, quand je suis dans mon F-150, tout le monde me laisse passer quand je veux changer de voie, mais dans ma Volt, personne ne me laisse passer.
Mm-hmm.
C'est spécial, ça. Vous imaginez, un F-150, c'est un gros véhicule, là, un gros pick-up, et une Volt, c'est un plus petit véhicule. Est-ce que le véhicule en dit beaucoup sur le type de propriétaire avec qui on pourrait interagir?
Absolument, parce que c'est pas le même territoire que tu gères. C'est tu gères avec un immense territoire qui prend de la place, qui va tasser d'autres plus petits territoires. Donc, il y a l'ego qui va là-dedans. L'ego, ça va... C'est pas quelque chose de négatif. Hein. L'ego, c'est une représentation de soi qui prend sa place dans la société. Puis là, ça bouge, là, cette affaire-là. Fait qu'il faut pas voir ça juste négatif. Mais c'est sûr que quand tu conduis une Vespa ou un F-150 monté avec des amortisseurs qui lèvent de 4 pouces et demi.
Roues,
c'est pas la même démarche. Tu te sens pas pareil. C'est l'extension de toi. Il y a une espèce d'identification à ton véhicule qui va jouer là-dedans en plus.
Luc est avec nous maintenant. Bonjour, Luc.
Ben, bonjour.
Bonjour.
Moi, je me suis reconnu quand on a parlé que on se fait couper et on va aller chercher le fameux contact de l'œil. Là.
Ouais.
Je me suis beaucoup là-dedans, puis pourtant j'ai le camion pour embarquer sur n'importe quel char.
Ouais.
Mais il m'est rien arrivé de grave. J'ai pas pogné de ticket, j'ai rien pogné. Mais en 2011 ou 2012, j'ai été chercher mon permis de moto.
OK.
Et je peux vous dire que ça nous fait voir la vie d'un autre côté, parce que quand on se promène en moto, on remarque drôlement plus les comportements des autres.
Oui.
Puis en même temps, parce qu'on se fait pitcher des boches de cigarettes, on se fait n'importe quoi, là. Et on se fait couper, on se fait, quand il mouille, on se fait mettre devant nous autres pour plus nous arroser. Mais on vient résilient face à ça, parce que j'ai compris que même si j'irais chercher le regard de l'autre avec ma moto, que je peux aller le chercher, un coup de roue, puis je suis dans le champ, je suis zéro chance de survie par rapport à la grosse machine qui est l'auto, là.
Ça a changé
comme bien, bien, bien gros le comportement qui fait qu'aujourd'hui, si tu me coupes, mon chum, coupe-moi, puis gars, c'est pas grave. En bout de ligne, quand je vais parler de toi le soir, ben je vais dire que t'es un cave ou un imbécile.
C'est bon.
Mais c'est un bon point, c'est un très bon point, parce que ça rejoint l'idée que quand on est dans un véhicule, on protège un territoire. Ce territoire-là, ben il est plus ou moins armé, parce que c'est comme des barrières de protection, un véhicule. Fait qu'il y a un territoire, mais t'as comme une barrière. C'est sûr, quand t'as un gros véhicule très fort, ben c'est comme si rien peut t'arriver, donc ça change comment tu te sens. Quand t'es sur une moto, t'as rien, t'es tout nu tout seul. Donc, ça change, ta perception des choses, ça change, tu remarques beaucoup plus comment les gens conduisent, parce que les gens ne se rendent pas compte. Quand tu te sens protégé, tu sens moins le besoin de te protéger. Là. Tu te sens déjà dans quelque chose qui est hyper sécuritaire, donc tu ne fais pas nécessairement tes angles morts, tu ne mets pas tes clignotants. Quand tu es dans une moto, ça change ton rapport à la route, et donc on est très vulnérable. Donc, ça, comme monsieur dit, là, ça change ton rapport à la route, tes décisions, tes réactions émotionnelles.
Jean-Marc, maintenant, est au téléphone. C'est le dernier appel qu'on va prendre pour ce sujet-ci. Bonjour, Jean-Marc.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui. Écoutez, moi, je suis un transporteur commercial. Je fais à peu près 120 000 km par année. J'envoie des vertes et des pommes.
Oui.
Là, présentement, je vous parle, je suis aux États-Unis, justement. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné, on est sur l'autoroute, puis là, il y a quelqu'un qui me la coupe, là, mais direct en avant de mon camion. Je le vois pas, je suis en beau maudit, je crie mon tam de clown.
Ouais,
je me déplace, je le pose à côté, j'arrive à côté, c'était un clown. C'était un clown, il s'en allait donner un spectacle.
Oh, c'était vraiment un clown, OK.
C'était un clown.
C'était littéralement un clown.
Donc, ah ouais, c'en était un.
Mais est-ce que ça t'a aidé à le pardonner?
J'ai tellement ri, là. On était quatre dans l'auto, là. On a les quatre éclatés de rire. Puis moi, juste un voyant la main avec son petit gars. C'était vraiment drôle. Vraiment, là.
Jean-Marc, dites-moi donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les conducteurs québécois et les conducteurs de l'extérieur du Québec, là, vous qui vous êtes promené un petit peu partout?
J'irais même plus loin. Il y en a des conducteurs de la région de Montréal, des conducteurs de la région nord de Montréal et le reste des autres places. La seule place que j'ai vue qui se ressemblait beaucoup, beaucoup à Montréal, là, c'est dans la région de Washington. Là, quand on pogne Baltimore jusqu'à Washington, là c'est un peu fou. Mais le reste sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés qu'à Montréal. Là. À Montréal, ça en est rendu dangereux. Là.
Okay. Ah oui, vraiment. Okay. Hey, Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci,
ben oui.
C'est fort intéressant. Oui, mais ça, on l'avait déjà entendu. En fait, l'espèce d'adage, c'était que les Québécois, les conducteurs québécois étaient vraiment plus incompétents que les conducteurs d'ailleurs.
Okay.
Mais ça, tu sais jamais si c'est vrai ou pas. Là. Tu sais, quelle étude a fait ça, on sait pas. Mais si on parle, quand on parle à des camionneurs, par contre, qui se promènent un petit peu partout en Amérique du Nord, souvent, c'est ça qu'ils vont dire.
Ah,
mais là,
oui,
Jean-Marc dit même plus proche de la métropole.
Okay.
Parce que les gens sont plus pressés, plus stressés. Ils partent pas à cette bonne heure pour aller au travail, je ne sais trop.
Je sais pas c'est quoi les comportements qui sont les plus irritables. Moi, j'ai l'impression que ce sont des comportements inconscients, c'est-à-dire juste tourner comme si de rien n'était en mettant tous les autres à risque. Je pense pas que j'ai pas l'intuition que c'est une question de vitesse, c'est une question de comportement inconscient qui met l'environnement en danger. Ça ressemble, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais intuitivement.
Alors, restez conscient du danger, essayez de ne pas rouler trop vite et se tenir loin de toute interaction potentiellement
Si vous faites un
dangereuse.
Move, regardez, à évaluer les conséquences pour autrui. Je pense que c'est comme de la colère, ça se vit à deux, où on essaie de ne pas en avoir du tout. Fait que c'est juste d'en avoir plus conscience, 360, je pense.
Oui, c'est ça, on va s'enligner pour ça. Merci beaucoup d'avoir participé à ce sujet.